vision d'histoire.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Galilée, Martine Dumais au micro, bonjour. Bienvenue à notre seconde émission sur Félix Gabriel Marchand et l'éducation. Nous recevons avec grand plaisir encore cette semaine M. Jocelyn Saint-Pierre. Bonjour M. Saint-Pierre.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes historien, que vous avez travaillé longtemps à la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec et que vous êtes encore fort occupé à plein de projets, dont, si je me souviens bien, une biographie de Jean Lesage.
Oui.
À venir.
À venir.
À venir. Et M. Jonathan Livernois, qui est professeur au département de littérature, de théâtre et de cinéma de l'Université Laval. Probablement que nos auditeurs se disent, c'est pas un littéraire qui fait de l'histoire.
Une bonne question. Hein? Je sais pas trop si c'est un historien qui fait de la littérature ou l'inverse. Drame d'une vie. Mais disons que je me considère comme un spécialiste de l'histoire intellectuelle et littéraire. Donc, c'est comme ça que ça me trouve une identité.
Parfait. Donc, on avait vu les débuts du parcours de Félix Gabriel Marchand. Juste rappeler qu'il a été premier ministre du Québec de 1897 à 1900. Un court mandat, mais une longue histoire politique, parce qu'il y a un long parcours, on l'a vu. C'est un homme qui est un peu oublié de notre mémoire collective, mais vous avez rappelé que c'est un homme politique d'un autre temps, donc et qui était en une période charnière. On avait vu son parcours. On voudrait revenir, je pense, vous m'aviez demandé, de revenir sur deux éléments que vous trouvez importants et qu'on n'a pas eu le temps beaucoup d'élaborer la semaine dernière. Toute la question, Jocelyn Saint-Pierre, de bon gestionnaire qui va jusqu'à éliminer un déficit. Aujourd'hui, il y en a qui en rêveraient.
Oui, effectivement. Alors, Marchand, c'est extraordinaire parce que, comme Lesage d'ailleurs, il est ministre des Finances et premier ministre. Et lorsqu'il arrive, les conservateurs ont laissé un déficit de 946 000 $. Aujourd'hui, c'est pas des gros montants, mais c'est énorme. C'est sur un budget d'environ 3 millions de dollars.
Oui, parce que l'État est tout petit. La révolution tranquille n'est pas passée par là encore.
C'est ça. Alors, puis Marchand, en 99, réussit à faire un surplus de 22 000 $. Alors, c'est on parlait d'un bon gestionnaire. Je pense qu'il y a beaucoup de ministres des Finances qui rêveraient d'une telle performance.
Tout à fait.
La vie économique aussi, c'est un petit peu mieux quand même, malgré aussi à la fin du 19e, bien sûr.
Ben, la conjoncture économique s'était développée, s'était améliorée. Mais quand même, je pense que c'est une belle illustration de ses talents de gestionnaire.
Jonathan Livernois, vous qui connaissez très bien la littérature québécoise, vous connaissez vos classiques, donc Un homme et son péché, Séraphin, Le Grand Nord, la colonisation, etc. Donc, il y a un lien avec cette époque-là, toute la question de la colonisation et de l'immigration canadienne-française.
Oui, bien, comme plusieurs, comme Chauveau, Marchand va s'intéresser beaucoup aux manières de faire pour éviter la saignée, pour éviter l'exode vers les États-Unis. On sait que probablement 1 million de personnes à peu près qui sont parties entre 1840 ou 1920 à peu près. Là, c'est toujours les chiffres qu'on donne, pardon. Mais il propose une solution assez intéressante, c'est le développement de société d'agriculture aussi. Parce qu'on se rend compte certaines faiblesses de l'agriculture. On veut assez l'homme de science aussi qui est derrière ce marchand. Un marchand a une ferme modèle, on ne l'a pas dit à Saint-Jean, mais il a une ferme modèle. Il apprend comment cultiver, les chevaux, tout ça. Et il se dit, on doit développer comme ça pour amener nos concitoyens davantage à une meilleure agriculture développée. Donc, il participe à sa manière à la grande tâche de la colonisation qui aura, faut bien le voir, quand même des résultats plutôt mitigés, malheureusement.
Oui, et le problème avec, c'est que la vallée du Saint-Laurent, c'est quand même quelques centaines de kilomètres, puis les terres sont assez quand même riches, très productives. Mais avec le temps, et puis il y a des familles nombreuses, si vous avez 10 enfants, puis sur ces 10 enfants, il y a 6 garçons ou 7 garçons, c'est l'aîné qui a la terre. Alors, ces plus jeunes, eux autres, ils sont mal pris. Alors, c'est pour ça qu'on veut développer à l'extérieur de la vallée du Saint-Laurent. Mercier, il fait un chemin de fer jusqu'en Gaspésie. Il fait le chemin de fer Lac-Saint-Jean pour développer le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis après ça, donc Marchand, il développe la colonisation. Il n'a pas été le seul à le faire, là. Il développe la colonisation pour que les gens restent au Québec. Parce qu'il dit, les fils de cultivateurs, ce sont le nerf de la population. Alors pour lui, c'était... Puis il y a des témoignages, là, des discours qu'il a fait, là. Pour lui, c'est une calamité. Il y a eu un grand exode assez imposant, là, des milliers de... On dit qu'il y avait des convois de Québécois qui partaient... On dit même qu'aujourd'hui, il y a autant de descendants canadiens-français aux États-Unis qu'il y a d'habitants au Québec.
Et pas rien, donc, à ce moment-là. On avait dit la semaine dernière qu'il y avait une forme de premier balbutiement de peut-être révolution tranquille à l'époque de Marchand. Et un des grands enjeux de la révolution tranquille des années 60, ça a été l'éducation. Et si on s'attardait maintenant à l'éducation à son époque, qu'est-ce qu'on sait de l'éducation à l'époque de Félix-Gabriel Marchand? Je sais que c'est une grande question que je vous pose, mais qu'est-ce que vous auriez à me dire sur ça?
Peut-être très rapidement qu'on a eu un premier semblant de ministère d'instruction publique sous Chauveau. La pression de l'Église a fait en sorte qu'à partir de 1873-74, ça disparaît.
Chauveau qui est le premier ministre du Québec.
Oui, c'est ça. Oui, merci. Et on aura donc un système à partir de 1875 avec le Conseil de l'instruction publique, un comité protestant, un comité catholique, et le gouvernement n'a pas son mot à dire là-dedans. C'est-à-dire que ça se dit indépendant, mais c'est évidemment l'Église catholique et protestante qui chapeaute le tout. Le problème, c'est qu'on veut prendre, en tout cas, un peu position par moment, notamment sur les manuels scolaires, sur toutes sortes de choses. Il y a beaucoup à faire. Et c'est ce que va tenter de faire, en quelque sorte, Marchand, quand il est premier ministre. Il va malheureusement se casser les dents, mais voilà.
On va y revenir tout à l'heure. Jocelyn Saint-Pierre, vous, sur l'éducation, vous auriez à dire
oui,
quoi pour le 19e
siècle? L'état de la situation est désespérant. Il y a 26 % d'analphabètes. Et à son époque, là, et avant 1960, 60 % des francophones n'avaient qu'une septième année. 13 % avaient une onzième année, et seulement 3 % les gens de 20-24 ans fréquentaient l'université. Donc, c'est la catastrophe. Et Marchand, il s'attaque à un problème colossal. Puis ce qui est désespérant, c'est que quand le sage arrive au pouvoir en 60, cette situation-là, elle est encore... Puis elle est aggravée, parce qu'il y a le bébé boomer. C'est vraiment là, désolant qu'on n'ait pas eu un ministère de l'Éducation.
Tout à fait.
À cette époque-là. Parce que le problème, il aurait dû être réglé à ce moment-là.
Puis, ce qu'on constate, petite parenthèse, quand Paul Gérin-Lajoie va présenter son Bill 60, il va dire que les arguments qu'on lui servait pour dire « Non, non, vous ne pouvez pas faire ça », c'était les mêmes arguments qu'on avait en 1897 sur l'indépendance, la prétendue indépendance de ces comités-là. Faut pas mettre l'État là-dedans sans faire de la politique. Ben justement, il aurait fallu de la politique, peut-être. Mais ça, plusieurs ne le voulaient pas.
Oui, puis un intendant, le superintendant de l'éducation, c'est pas un ministre. Un ministre, c'est quelqu'un qui siège au conseil d'administration de la province du Québec, la province de Québec. Un ministre est à la table du conseil des ministres. Il répond aux questions de ses confrères, il peut persuader ses confrères, et en chambre, il défend son ministère. Et il y a des débats parlementaires, les gens peuvent suivre les débats. Alors, autrement dit, quand il y avait un haut fonctionnaire, ben lui, le département... L'instruction publique faisait des rapports. Hein? Mais bon, c'était pas un ministre de l'Éducation.
Voilà.
Jocelyn Saint-Pierre, on dit souvent que Félix-Gabriel Marchand a voulu moderniser l'éducation. Il y avait un projet, c'était même, si je ne me trompe pas, une de ses promesses électorales. Pourquoi ça lui tenait tant à cœur, avant de parler de ce qu'il voulait faire, pourquoi ça lui tenait tant à cœur, cette question de l'éducation?
Bien, Marchand, c'était quelqu'un qui est cultivé. Hein? Puis je pense que il voulait que les Québécois de l'époque aient une culture de base. Puis souvent, la situation de l'enseignement à cette époque-là, c'est... Bon, c'est très religieux, hein? On enseigne la bienséance, on enseigne la religion, l'histoire, hein? Mais c'est une histoire très, très, très teintée. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'enseignement sur la science, il n'y a pas de... Puis après ça, il n'y a pas de grandes écoles non plus. C'est les congrégations religieuses là, qui font le
travail. Il y a des collèges classiques.
Les collèges classiques, mais les collèges classiques, c'est l'élite qui va là. C'est pas les gens, les cultivateurs ou les gens qui habitent les villes. Et il y a deux universités. Deux universités ayant en leur tête deux monseigneurs. Alors, tout l'enseignement est clérical, hein, c'est... Puis aussi, il y avait la question des manuels aussi. Hein. Les manuels changeaient d'une région à l'autre. Alors, quand quelqu'un déménageait, ça coûtait cher. Donc, il a essayé d'uniformiser les manuels. Il y avait la compétence des enseignants et enseignantes aussi. Dans un petit village, l'enseignante, c'était souvent du patronage. Hein. Il prenait celle qui avait eu les meilleurs résultats, puis elle devenait professeur. Donc, ça a été une grosse réforme, une belle tentative de réforme pour régulariser tout ça. Encore là, je me répète, mais... C'est ce que le Gérard Lajoie va faire plus tard. On aurait dû le faire à cette époque-là, mais bon.
Sur les manuels, c'est intéressant parce que, vous voyez, c'était très inégal. Mais c'était aussi souvent la chasse gardée des ordres religieux, selon, par exemple, les Clercs de Saint-Viateur pour l'histoire, notamment. Et ce que ça montre aussi, c'est une manne, c'était beaucoup d'argent. Alors, ces problèmes-là, Jocelyn a tout à fait raison. Le rapport Bouchard, dans les années 60, va dire, ben, écoutez, là, c'est le contrôle par l'Église des manuels, c'est des manuels qui n'ont aucun sens. Alors, déjà, ça, Marchand le dit, le montre. Donc, propose. On rappelle, cette première réforme, elle est faite en douceur. Il dit pas, on va tout casser, puis... Il veut laisser une place très importante à l'Église catholique. Il sait bien, de toute façon, qu'il ne pourra pas y aller à fond comme
le
veulent.
Il n'y a pas le personnel, de toute façon.
Oui, effectivement. Puis il n'y a pas non plus ce que veulent faire, par exemple, les Rouges, les libéraux radicaux. Ben, il ne peut pas le faire. Donc, il va essayer de trouver une solution, je pense, en tout cas, pour en arriver à ma foi, au moins, à entrer un peu dans l'éducation, être capable de gérer, sur le plan matériel, certains aspects de cette éducation. Puis j'ajouterais aussi qu'il est, Jocelyn a tout à fait raison, sur la question de la volonté d'éduquer les masses. On retrouvait ça aussi chez Honoré Mercier, avec notamment les bibliothèques d'ouvriers. Il y en avait une à Saint-Roch, ici à Québec. Ça va être coupé par les conservateurs dès le retour des conservateurs au pouvoir. Mais c'était important, donc, d'offrir une formation de base et l'améliorer, en tout cas.
Marchand dit... Lorsqu'on parle de la loi, je souhaite pouvoir donner gratuitement l'instruction élémentaire à tous les enfants du peuple. Vous voyez qu'il y avait du travail à faire.
Exact.
Et là, il va faire un projet de loi. Donc, dans les débats, donc on doit voir tous les débats autour de ce projet de loi-là. J'imagine, c'est un projet quand même majeur. C'est un projet qui va susciter beaucoup de réactions parce qu'il voit large. Là. On parle des enseignants, on parle des manuels, on parle du financement. C'était pas rien, son projet de loi. Là.
C'était pas rien. C'était pas...
D'abord, c'est un projet immense. Il a 542 articles. C'est tout un projet de loi.
Oui, aussi, rapidement, l'Église, donc, n'accepte pas, va essayer de tout faire pour que ça fonctionne pas. Par contre, évidemment, ils sont au pouvoir, donc le projet fait son chemin. Tout à coup, oui, ça passe, mais où est-ce que ça va accrocher? C'est là où veut couper Marchand depuis au moins 20 ans. C'est le fameux conseil législatif, le Sénat. Pourquoi il y a toujours une espèce de... Vous savez, on forge un peu les contretemps dans le Sénat, parce que dans le conseil législatif, parce que ce sont des gens qui ont été nommés souvent par les gouvernements précédents.
Ouais.
Donc, Mgr Bruchesi, qui est l'évêque de l'archevêque de Montréal, va dire, ben, je vais aller convaincre une des figures importantes de ce Sénat, qui est Thomas Chappet. Hein, vous le connaissez, Thomas Chappet, c'est un historien qui a une petite carrière, imaginez-vous, d'à peu près 62 ans, parce qu'il a été là jusqu'en 1946, imaginez-vous. Donc, c'est interminable comme carrière, mais c'est lui, beaucoup, qui va mener la bataille. Donc, au Conseil législatif, contre le projet de loi de Marchand.
Et le Conseil législatif était en retard d'une élection, hein, comme ils étaient là nommés à vie. Et à l'époque de Marchand, c'est des ultramontains. Et le plus grand, l'ultramontain le plus efficace, c'est Thomas Chappet. Alors, les évêques, l'Église catholique, le Conseil législatif, c'est là, avec cet organisme-là qu'elle a pu paralyser la réforme de l'éducation.
Juste pour les auditeurs et auditrices qui connaîtraient moins l'ultramontanisme, qui ne sont pas familiers avec ça, juste nous situer ce courant religieux-là, qui n'est pas toute l'Église catholique du Québec, mais qui est une bonne portion.
Bien, qui était très, 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 un courant très puissant dans les années 1860, 70, 80. Essentiellement, on dit hein, ultramontain par-delà les montagnes, c'est-à-dire qu'on tient son enseignement de Rome. Rome, et on, de manière tout à fait anecdotique, on passe du col gallican au col romain. Ah ben ça veut dire quelque chose quand on regarde des images des prêtres qui sont inspirés, hein, un peu à une toge de juge. Ben on s'est inspiré de la manière de faire à la française, mais là tout à coup on doit prendre vraiment nos ordres de Rome, et à Rome, ben qu'est-ce qu'on propose? C'est une présence non seulement accrue mais complète de l'Église catholique dans les affaires de l'État, les affaires temporelles. Donc là c'est la surveillance d'à peu près tout, contrôle de plein de choses, et ben la société civile se retrouve un peu écrasée là-dedans. Et les plus grands ultramontains, parce que vous avez raison de le dire, ce ne sont pas tous les membres de l'Église catholique qui sont ultramontains, mais ils sont dominants. Et je pense qu'effectivement, avec Thomas Chappet, il y a encore cette mentalité-là en 1898 au Conseil législatif.
Puis aussi en France, un ministre de l'Éducation qui a été très actif, hein, Jules Ferry. Et dans sa proposition, là, c'est presque exactement ce que Marchand a fait. Puis alors, à cette occasion-là, il y a beaucoup de prêtres de congrégations religieuses qui sont venus au Québec parce que l'enseignement devenait laïque.
Oui, c'est donc, l'école républicaine. Là.
Non, ils sont venus ici. Donc, oui. Ces gens-là, ils sont encore dans le milieu de l'éducation. Et c'est des conservateurs. En fait, ce qu'ils ont peur, c'est qu'il y a des idées radicales. Hein?
Il y a une révolution
peur,
en France.
Ben, oui. Puis ils ont peur aussi que le patronage, qu'il y a du patronage. Et ben, il y en a eu pareil plus tard. Là. Et donc, qu'on sème de nouvelles idées, puis que ça diminue l'importance de la religion, ça attaque les connaissances, la culture religieuse. Donc, puis moi, je pense que le clergé a eu un rôle important à jouer parce qu'en faisant ça, il a préservé la culture québécoise, de l'assimilation. Quand on disait la langue et la religion, là, c'est ce qui nous a sauvés, je pense.
Messieurs, on est déjà rendu presque dans le dernier tiers de cette seconde émission sur Félix-Gabriel Marchand. Le beau projet de loi que vous avez décrit, c'est-à-dire cette modernisation de l'éducation au Québec, ben ça va frapper son Waterloo. À ce moment-là, on l'a vu au Conseil législatif. Et qu'est-ce qui se passe après ça pour Félix-Gabriel Marchand?
Ben, bon, d'abord, c'est un échec, vous l'avez bien dit. À ce moment-là, il va renverser, il va mettre un autre projet qui finalement ne fera pas grand-chose. Mais, bon, il peut quand même se consoler. Donc, on est en 1897-98, ça fait 30 ans qu'il est au Parlement. On le célèbre. Et il y a une dimension qu'on n'a pas beaucoup évoquée jusqu'à présent, c'est le caractère homme de lettres. C'est un homme de lettres aussi. Il va faire toutes sortes de comédies, de petites pièces un peu amusantes, à la manière des comédies peut-être un peu de boulevard en France. Mais il y a un certain succès, Les Faux Brillants, peut-être, qui est la plus connue de ces pièces-là. Et il est reconnu. Les hommes politiques même sont... Il y a la phrase d'un député, je me souviens plus lequel, conservateur, qui dit, ben, écoutez, on est prêt à accepter que Saint-Jean envoie un député libéral en autant qu'il nous amène aussi ses pièces de théâtre, parce qu'elles sont jouées à Québec. C'est grand enthousiasme. C'est l'époque, hein, où je l'ai souvent dit, mais homme de lettres, homme d'État, c'est encore pas mal lié. Mais c'est un des derniers, cela dit. Donc, reconnu. Donc, vous avez parlé d'un court règne, très court règne, mais c'est parce qu'il meurt. Il est, bon, déjà assez vieux quand même, faut bien voir. Il a été usé par le pouvoir. Mm-hmm. Souffre d'artériosclérose. Habite chez son beau-fils, le docteur Simard. Et, bon, il doit s'arrêter un certain temps. Malheureusement, il va donc mourir en 1900, donc début, juste avant le début du 20e siècle. Mais c'est la fin, donc, pour lui. C'est une des cérémonies aussi grandioses.
Oui, ben très grandiose, parce que il y a une tradition, c'est que lorsque le premier ministre meurt en fonction, son cercueil est exposé à la salle de l'Assemblée législative. Et ça a été le cas de Marsan. C'était la première fois qu'un premier ministre mourait en fonction. Et il y a eu un cortège entre l'Hôtel du Parlement et la Basilique de Québec exceptionnel. Il y a eu 5000 personnes. Puis Marchand est mort pauvre, hein? Ça, on ne l'a pas dit. Là,
mais c'est un homme d'une grande probité. Vous avez fait allusion tout au long des deux émissions. Cet homme-là s'est pas enrichi en politique.
Oui, ça s'appelle Tombal, vir probus, hein, l'honnête homme.
Oui, et la maison existe encore sur la rue Sainte-Ursule. Et il y a une plaque sur la maison d'Arthur Simard.
Mais jusque dans ses funérailles, on voit ses relations complexes avec l'Église, je crois.
Oui. Imaginez-vous que c'est Mgr Bruchesi qui a fait l'éloge de Marchand.
Il y avait eu maille à partir avec Marchand.
Oui. Il était allé à Rome. Mgr Bruchesi était allé à Rome. Marchand était allé à Rome. Alors, Mgr Bruchesi, il est habile. Il dit qu'il compte les partis, mais je vais vous le lire parce que c'est un peu sibyllien.
Les mots de l'époque.
Oui. Alors, c'est que tout membre d'un parti, quel qu'il soit, respecte les droits de l'Église, qu'il soit prêt à sacrifier tout plutôt qu'un principe et qu'enfin il se trompe. Errare humanumes, il ne se trompe que de bonne foi, se proposant toujours un but noble le plus légitime. Donc, d'une certaine façon, il attaque Marchand. Et son gendre a voulu faire une exclame parce qu'il n'avait pas aimé ce passage-là. Il a dit que Mgr Bruchesi avait mis une couronne d'épines sur l'oraison funéraire de Marchand.
Et on reste dans le langage religieux avec une couronne d'épines, là?
Oui, c'est ça. Mais il s'est quand même repris. Il a dit que c'était un citoyen intègre, un catholique pratiquant, qui avait respecté l'Évangile. Il a été très attaché à la religion. Il a défendu et observé les préceptes. C'est un paroissien exemplaire. Il a été membre d'organisations religieuses. Et en fait, il a été respectueux de l'autorité de l'Église.
Oui, c'est ça. Avec quelques couacs dans le discours. Et il faut bien voir. Et tout le monde comprend. Hein? Tout le monde comprend. C'est un anglicisme, mais on a ajouté l'insulte à l'injure. Mais c'est un peu ça, quand même, qu'on plusieurs vont sentir à ce moment-là. Dont, Jocelyne l'a bien dit, Raoul Dandurand, qui passe tout près de se lever pendant, en disant, ça n'a pas de sens, là, on attaque mon beau-père comme ça. D'ailleurs, c'est intéressant qu'on parle de Raoul Dandurand, parce que ça montre un peu la prochaine génération aussi dont on peut parler.
Oui, tout à fait. Peut-être l'évoquer un petit peu rapidement.
Oui, bien, très rapidement. Bien, on a évoqué tantôt Joséphine Marchand-Dandurand, qui va être une proto-féministe, je vais le dire comme ça, qui a été une journaliste sous différents pseudonymes, qui a tenu un journal, qui a paru plusieurs années plus tard, bien sûr, à l'époque.
Elle s'est pas occupée de bibliothèque aussi, avec son mari?
C'est fort probable, parce que, oui, certainement, avec Raoul Dandurand, bon, évidemment, c'est des gens très, très riches. Il faut comprendre que Dandurand, c'est pas la pauvreté, là. Donc, les deux se retrouvent avec une maison, je pense que c'est à Westmount ou à Tremont, je sais plus, peu importe. Mais c'est des grosses familles, là, donc... soirée mondaine, tout ça, mais avec un
philanthropie, là.
Philanthropie, exact. Donc, côté libéral qu'elle a. Et il y a un autre fils, Gabriel Marchand, qui, lui aussi, va être député, notamment. Donc, il y a cette famille Marchand, il y a cette tradition. C'est une famille proche, on l'a compris, hein, dans ce qu'on a dit tantôt. Des gens qui sont pas, je dirais pas complètement avant-gardistes, mais qui ont une certaine modernité dans leur rapport. Donc... Jocelyne l'évoquait, mais quand il est en chambre, Marchand, il s'ennuie de sa famille. Puis il veut avoir des nouvelles, il prend des nouvelles de ses enfants, il s'occupe beaucoup de ses enfants, d'autant que sa femme, Ercélie, est souvent malade. Donc, il va prendre davantage, disons, je pense à Alex Lamarche qui disait ça, il prend plus de place, disons, que bien des pères à l'époque.
Donc, on est rendu à la fin. Vous avez écrit ce qui avait suscité cette invitation. C'est un article dans Le Devoir que j'avais lu. Donc, qui était à l'occasion d'un anniversaire de Félix Gabriel Marchand. Un article fort intéressant qu'on peut facilement retrouver, donc, en cherchant sous Gabriel Marchand ou sous vos noms. Et ça s'intitulait Le dernier et le premier. Et je trouvais que le titre était très accrocheur.
Ouais.
Donc, pour amener à lire, qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Le dernier, je l'évoquais tantôt un peu, c'est cette idée de, bon, et voilà, il représente un homme de lettres un peu dépassé déjà, même ses roues flaquettes, là, ses cheveux ont l'air un peu dépassés en 1897, mais il représente une période qui est en train de disparaître. Le premier, parce que, on l'a bien dit depuis tantôt, c'est en éducation qu'il a présenté des choses assez novatrices. En tout cas, il aurait pu, s'il avait réussi, comment dire, il y a un retard qui aurait pas eu lieu au Québec. On n'aurait pas eu des surintendants de l'instruction publique dire comme Homère Jules Desaulniers, nous avons le meilleur système d'éducation au monde, qui est absolument risé, vous en doutez bien, on a vu les chiffres tantôt. Il était là, et dans le fond, Jocelyn le voit bien aussi par son travail sur le sage, ce que disait Gérin Lajoie, les réticences, c'est la même chose 64 ans plus tard. Sa volonté aussi, disons-le, de dissoudre le Conseil législatif, il va falloir attendre Jean-Jacques Bertrand en 68. Il est donc, il prépare la Révolution tranquille à certains égards, mais ça s'est interrompu, comme malheureusement on peut le constater. Puis en 64, ben on va retrouver un peu de dans le rapport parent de ce qu'il proposait, notamment sur les manuels scolaires.
Puis le sage va être plus habile que Marchand. Bon, faut dire que le cardinal Maurice Auroi puis Monseigneur Léger, c'était pas le Monseigneur Bouchézy, puis Léon XIII, c'était pas Jean XXIII. Mais le sage était très, très habile. C'est lui, dans le fond, qui a réussi à dédouaner le projet de Gérin Lajoie. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ignore, qui a réussi en négociant avec les deux évêques, qui a réussi à faire passer la mesure sur le ministère de l'Éducation. Alors, Gérin Lajoie a eu un rôle fondamental, mais le sage a négocié avec le clergé l'acceptation du projet de loi.
Ce serait le sujet d'une fort belle émission à venir, Jocelyn Saint-Pierre. On est déjà à la fin. Si vous aviez une lecture à suggérer pour les gens qui voudraient en savoir plus long, parce qu'on l'a dit, c'est quelqu'un qu'on a un peu oublié de notre mémoire collective, vous suggérez quoi, Jonathan Livernois?
Je vais prendre ce que disait tantôt Jocelyn sur le site de notre ami Dave Turcotte. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est beaucoup d'objets, d'illustrations. On est loin du fétichisme, là, cela dit, là, mais on est capable de bien comprendre le personnage. On voit des livres, on voit un peu de quoi a l'air aussi.
On n'a pas parlé de ses voyages en Europe.
C'est vrai.
Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas parlé.
De ses décorations, la Légion d'honneur, et puis...
C'est ça. Mais il y a tout ça, donc c'est une belle entrée en matière, je dirais, avec de bons résumés, mais sinon, il y a toujours le bon vieux DBC, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de monographie, à ma connaissance, vraiment, là, qui fait le tour de la question, moi que je me trompe, Jocelyn. Là.
Oui, ben il y a Claude Corbeau qui a fait quelque chose. Hein.
Ah oui, sur le... Mais c'est... Oui.
C'est ça, sur l'échec de Félix-Gabriel Marchand, une interprétation en forme dramatique.
Oui, il fait ça.
Non, il n'y a pas beaucoup d'autres choses.
Puis ceux qui seraient vraiment très, très intéressés pour aller voir la reconstitution des débats, j'imagine.
Ben oui, ça, ben, quand je parle du site Internet, tous les débats sont là.
Site de l'Assemblée nationale.
Le site de l'Assemblée nationale, asnet.qc.ca. Vous allez sur bibliothèque et vous allez avoir... Vous pouvez même appeler à la bibliothèque pour... Vous pouvez même vous rendre à la bibliothèque pour les consulter.
C'est ouvert.
Je vous remercie beaucoup, messieurs, d'être venus aujourd'hui nous parler de Félix-Gabriel Marchand, de son parcours et notamment de son parcours par rapport à l'éducation au Québec. Merci, Jonathan Livernois.
Merci.
Merci, Jocelyn Saint-Pierre.
Merci.
Merci beaucoup à vous deux. Merci aussi à Yannick Caron pour la mise en onde, Mario Blouin pour le choix musical. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Vision d'Histoire.